إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc ce soir la lecture de cette épître de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, intitulée Les quatre règles. On a vu dans les assises précédentes les deux premières règles exposées par le Cheikh rahimahullah ta'ala, dans lesquelles il a réfuté certaines ambiguïtés des polythéistes. Dans la première règle, il a réfuté l'ambiguïté de ceux qui prétendent qu'il suffit de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être musulman. Et dans la deuxième règle, il a réfuté l'ambiguïté de ceux qui prétendent, parmi les adorateurs des tombes, ne rechercher par ces adorations que le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'intercession. Il a donc exposé, à travers la deuxième règle, la preuve que ceci est le shirk que les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pratiquer. Et dans cette troisième règle, le shaykh rahimahullah ta'ala va réfuter une nouvelle ambiguïté, qui est la parole de certaines personnes qui disent, pour définir le shirk, qu'il consiste à adorer les statues. Le shaykh rahimahullah ta'ala, dans cette troisième règle, il va nous démontrer le contraire à travers des preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, rahimahullah, Al-qa'idatu thalitha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budu al-malaika wa minhum man ya'budu al-anbiya wa al-salihin ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. La troisième règle est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu auprès de gens divergents dans leurs adorations. Certains parmi eux adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les vertueux. D'autres adoraient les arbres et les pierres, et d'autres adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit et ne fit pas de distinction entre eux. Donc dans cette troisième règle, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous démontre que les choses qui étaient adorées par les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de différentes sortes. Et ceci est un des méfaits du shirk, du polythéisme. En effet, tu trouveras les polythéistes divisés et divergents et tu ne les trouveras pas unis sur une chose. Contrairement aux muwahhidin, contrairement aux monothéistes qui sont unis et n'adorent qu'un seul Dieu unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans son noble livre, dans le verset 39 de Sourate Yusuf, أأرباب متفارقون خير أم الله الواحد القهار. Qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Donc, parmi la fausseté du polythéisme et parmi les méfaits du polythéisme, le fait que ses partisans sont divisés dans leurs adorations et rien ne les réunit, car en réalité, ils n'ont aucune base et aucun fondement sur lequel cheminer. Ils ne cheminent que sur leurs passions et sur les prétentions de ceux qui les ont égarés. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple à ce sujet. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 29 de sourate Az-Zumar, ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسٌ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, c'est-à-dire un esclave, appartenant à différentes personnes. Un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet. Et un autre homme appartenant à un seul homme, Sont-ils égaux en exemple? La louange est à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans ne lui donner aucun associé. Il est à l'exemple de l'esclave qui n'a qu'un seul maître. Il est alors apaisé, car il sait ce que son maître attend de lui, et il sait ce que son maître désire de lui. Il répond donc à ses demandes. Alors que le mushrik, le polythéiste, il est à l'exemple de celui qui a plusieurs maîtres. Et il ne sait pas lequel d'entre eux satisfaire. Chacun d'entre eux a ses passions, chacun d'entre eux a ses demandes, chacun d'entre eux a ses désirs, et chacun veut le posséder et avoir la domination sur lui. Ceci est l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour le mushrik al-muwahid, le polythéiste et le monothéiste. Les mushrikoun donc, les polythéistes, ils sont divisés dans leurs adorations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait de différence entre eux. Il n'a pas fait de différence entre les adorateurs d'idoles, les juifs et les chrétiens, les majous et l'ensemble des polythéistes parmi ceux qui adoraient les anges, les prophètes, les vertueux ou autres. Il les a tous considérés au même niveau. Et il y a dans cela la réfutation à la parole de ceux qui disent que celui qui adore une statue n'est pas comme celui qui adore un homme vertueux ou un ange parmi les anges. Ils disent, les premiers adorent des pierres ou des arbres, ils adorent des objets sans vie, alors que celui qui adore un homme pieux, un homme vertueux, un saint parmi les alliés d'Allah, il n'est pas comparable à celui qui adore une statue. Et qu'est-ce qu'ils recherchent par cela? Lorsqu'ils disent cette parole, ce qu'ils veulent, c'est prétendre que celui qui adore les tombes aujourd'hui, son jugement est différent de celui qui adorait les statues. C'est-à-dire que pour eux, il n'est pas mécréant. Ils considèrent que celui qui adore les tombes aujourd'hui, il n'est pas mécréant et que son œuvre n'est pas considérée comme du polythéisme. Alors qu'en réalité, ceci est un égarement évident. Car il n'y a pas de différence entre le fait d'adorer un homme pieux ou d'adorer une pierre ou un arbre, d'adorer un djinn ou d'adorer un prophète en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la personne ou quelle que soit la chose ou l'objet qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est du polythéisme. Nous leur disons donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé, il n'a pas fait de différence entre les gens. Il les a tous considérés comme mushrikin, comme polythéistes, sans faire de distinction entre eux. Que ce soit celui qui adore le Messie, Isa ibn Maryam alayhi salam, alors que c'était un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, les juifs qui adoraient Uzair, alors que c'était un de leurs prophètes ou un de leurs hommes vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre eux. Car dans le shirk, dans le polythéisme, il n'y a pas de différence. Et il n'y a pas de distinction entre la personne qui adore un homme pieux et la personne qui adore une statue. Entre la personne qui adore une pierre et la personne qui adore un arbre. Tout ceci est de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il soit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 36 de Sourate An-Nisa, « Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. » Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Aucun associé, quel qu'il soit un ange, un prophète, un messager, un homme vertueux, un saint parmi les alliés d'Allah, une pierre, un arbre ou une statue. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Donc le Cheikh rahimahullah, à travers cette règle, il a réfuté cette ambiguïté présentée par les gens afin de disculper les adorateurs de tombes qui sont encore présents jusqu'à nos jours. Et il a mentionné la preuve de cela, c'est-à-dire la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre eux. Et il a dit « Wa dalil qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah. » Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna et que la religion soit entièrement à Allah. Ce verset est une preuve générale de ce que le Cheikh rahimahullah vient de nous exposer. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre les différents polythéistes de son époque. Il n'a pas fait de distinction entre ceux qui adoraient une pierre ou ceux qui adoraient un homme vertueux, entre ceux qui adoraient un prophète ou ceux qui adoraient un arbre. Mais il les a tous mis au même niveau, il les a tous combattus sans faire de distinction. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il va nous amener les preuves détaillées quant au fait que ces gens-là adoraient autre chose que les statues. Il a donc mentionné ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقَاتِلُوهُمْ » et « combattez-les », c'est-à-dire l'ensemble des polythéistes, sans faire de distinction entre eux. « حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً » jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna. Et ce qui est voulu par la fitna dans ce verset, comme l'ont mentionné les savants du tafsir, c'est le shirk, c'est le polythéisme. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de polythéisme, quel qu'il soit, quelle que soit la chose adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un saint, un homme vertueux, une pierre, un arbre, le soleil ou la lune. Jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de polythéisme. Wa yakuna ad-dinu lillah. Et que la religion soit entièrement à Allah. C'est-à-dire que l'adoration soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans aucun associé. Quel qu'il soit, et il n'y a pas de différence entre le fait de lui associer un saint ou le fait de lui associer une pierre, un arbre, un démon ou toute autre chose qui pourrait être associée à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ensuite, le cheikh rahimahullah, comme on a dit, il nous mentionne les preuves des différentes choses qui étaient adorées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit rahimahullah, « Wa dalil al-shamsi wal-qamar » قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. La preuve concernant le soleil et la lune, c'est-à-dire la preuve concernant le fait qu'il y avait des gens qui adoraient le soleil et la lune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit la prosternation devant le soleil et la lune. Et ceci nous indique qu'il y avait des gens à cette époque qui se prosternaient devant le soleil et la lune. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prier au moment du lever du soleil et au moment de son coucher. Car il y avait des gens qui se prosternaient pour le soleil à ce moment-là, lors de son lever et lors de son coucher. C'est pour cela que la prière nous a été interdite à ces deux moments, même si la prière est accomplie pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le fait de prier à ce moment comporte une similitude et une ressemblance à ce que faisaient les polythéistes. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit la prière à ces deux moments afin de fermer toutes les portes et de ne laisser aucune issue à l'entrée au shirk au sein de cette communauté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit le shirk, il nous a interdit le polythéisme, mais il nous a également interdit les voies menant au polythéisme. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ et la preuve concernant les anges. C'est-à-dire que les anges étaient adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. Ce verset nous prouve donc qu'il y avait des gens qui adoraient les anges et qui adoraient les prophètes. Et ceci est du polythéisme. Et aujourd'hui, les adorateurs de tombes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, celui qui adore les anges et les prophètes ou les vertueux, ce n'est pas un mécréant, car il n'est pas comme celui qui adore les statues. Et ceci est une erreur évidente. Et c'est une parole remplie de fausseté qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna et à la voie à laquelle a appelé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, wa dalilul anbiya, la preuve concernant les prophètes, c'est-à-dire que des prophètes étaient adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. Et rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens: Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira alors: Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Et si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est imperceptible. Ce verset, c'est une preuve que l'adoration des prophètes, alayhim as-salatu was-salam, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, est du polythéisme au même titre que l'adoration des statues. Et ceci est une réfutation de ceux qui font la différence entre cela parmi les adorateurs des tombes et autres. Et c'est une réfutation de ceux qui disent que le shirk, le polythéisme, se limite à l'adoration des statues. Et que ceci n'est pas comparable au fait d'adorer un saint ou d'adorer un homme vertueux. Ils prétendent que le shirk est limité à l'adoration des statues. Et comme on l'a dit, ceci est une grave erreur. C'est une grave erreur pour deux raisons. La première, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il a blâmé l'ensemble des polythéistes, peu importe la chose qu'ils adorent en dehors de lui. Et la deuxième raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il n'a pas fait de différence entre l'adorateur d'une statue et l'adorateur d'un ange ou d'un homme pieux. Ceci est donc du polythéisme, au même titre que l'adoration des statues. Ensuite, il dit, rahimahullah, ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Et la preuve concernant les vertueux, c'est-à-dire le fait que les vertueux étaient adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole selon la traduction des sens rapprochés: ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ils cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Ce verset est une preuve qu'il y avait des gens qui adoraient les vertueux parmi les hommes. Ce verset, il a été dit qu'il a été révélé au sujet de ceux qui adoraient Al-Messih, Isa, alayhi salam, ainsi que sa mère et Uzair. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous informe qu'Al-Messih, Isa, alayhi salam, ainsi que sa mère Maryam, et de la même manière Uzair, sont tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils espèrent la miséricorde d'Allah et craignent son châtiment. Ils sont donc des serviteurs nécessiteux dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquent Allah et cherchent à se rapprocher de lui par son obéissance. Ceci nous indique donc qu'ils ne sont pas en droit d'être adorés, car ce sont des êtres humains qui invoquent Allah, qui espèrent sa miséricorde, qui craignent son châtiment. Et si telle est leur situation, comment pourraient-ils être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'autres savants du tafsir ont mentionné que ce verset a été révélé au sujet d'un groupe de personnes parmi les polythéistes qui adoraient un groupe de djinns. Alors ces djinns sont entrés en islam, mais leurs adorateurs n'ont pas eu connaissance de cela et ont continué à les adorer, malgré qu'ils étaient entrés en islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset que ceux qu'ils adoraient, c'est-à-dire les djinns, cherchent même à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, espèrent la miséricorde d'Allah et craignent son châtiment. Ils sont donc des serviteurs d'Allah et ils ne méritent pas l'adoration. Et quels que soient ceux qui sont visés par ce noble verset, quoi qu'il en soit, ce verset nous indique qu'il n'est pas permis de vouer une quelconque adoration aux vertueux, qu'ils fassent partie des prophètes ou qu'ils fassent partie des saints ou des hommes vertueux. Il n'est pas permis de les adorer, car ils sont tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne méritent en aucun cas l'adoration qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَدَلِيلُ الْأَحْجَارِ وَالْأَجْجَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Il dit ensuite, et la preuve concernant les arbres et les pierres, c'est-à-dire que les arbres et les pierres étaient adorés en dehors d'Allah, C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Ces trois noms qui sont mentionnés dans le verset sont des noms de divinités qui étaient adorés par les Arabes lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et parmi ces divinités, il y avait des pierres et parmi elles, il y avait des arbres. Al-Lat, c'est le nom d'une statue qui était présente à Taif. C'était une pierre sculptée autour duquel il y avait une bâtisse entourée de rideaux. Et il cherchait par celle-ci à concurrencer la Kaaba. Il y avait autour d'elle une sorte de cour et il y avait des gardiens. Et il l'adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Lat, elle appartenait à Thaqif. Et le verset peut être également lu Al-Lata. Et selon cette lecture, Al-Lata désigne un homme vertueux qui nourrissait les pèlerins. Et lorsqu'il est mort, ils ont construit sur sa tombe une maison et ils ont mis autour d'elle des rideaux et ils l'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'Uzza, c'était des arbres qui se trouvaient entre Mecca et Taif. Autour de ces arbres, il y avait une construction et des rideaux. Et il y avait des gardes. Et il y avait à l'intérieur des démons qui parlaient aux gens. Et les ignorants qui s'y rendaient, ils pensaient que c'était les arbres qui leur parlaient. Ou que c'était la bâtisse qu'ils avaient construite qui leur parlait. Alors qu'en réalité, ceux qui leur parlaient étaient des démons qui cherchaient à les égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette idole appartenait à Quraysh et aux gens de Mecca et des alentours. Quant à Manat, c'était une grande pierre qui se trouvait entre la Mecque et Médine. Elle appartenait à Khuza'a, Al-Aws et Al-Khazraj. Et ils se mettaient en état d'ihram, en état de sacralisation, pour le pèlerinage à partir de cet endroit et ils l'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces trois idoles étaient les trois plus grandes idoles des Arabes à l'époque de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a donc blâmés dans ce verset. Voyez-vous, Al-Lat et Al-Uzza, Emanat, la troisième, à quoi vous ont-elles servi? Vous ont-elles profité? Ceci est une manière de les blâmer et d'attirer leur attention afin qu'ils retrouvent leur raison et qu'ils se rendent compte que ce ne sont que des pierres et des arbres qui ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter, mais que ce sont de simples créatures. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu avec l'islam et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a envoyé Al-Mughir ibn Shu'ba et Abu Sufyan vers Lat à Taif pour la détruire. Ils l'ont donc détruit sous l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a envoyé Khalid ibn al-Walid à Al-Uzza qui l'a détruit et qui a coupé les arbres et qui a tué Al-Jinniya qui se trouvait à l'intérieur et qui parlait aux gens pour les égarer. Et également, il a envoyé Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu amanat pour qu'il la détruise. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, voyez-vous Al-Lat Al-Uzza et Manat, la troisième d'entre elles, elles ont disparu. Est-ce qu'elles leur ont été profitables? Est-ce qu'elles ont pu se préserver de la destruction? Elles n'ont rien pu faire face aux soldats du Tawhid envoyés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous prouve donc qu'il y avait des gens qui adoraient les pierres et les arbres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que leur adoration n'était pas limitée à l'adoration des statues. Et ces idoles-là faisaient même partie des plus grandes idoles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc pour cela que le shaykh, rahimahullah, s'est servi de ce verset comme preuve. Enfin, il a terminé par le hadith d'Abi Waqid al-Laythi. Et il a dit, rahimahullah, « Wa hadith Abi Waqid al-Laythi, radiyallahu ta'ala anhu, qal, kharajna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn, wa nahnu hudathahu ahdin bi kufrin, wa lil mushrikina sidra, يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات الحديث. Il cite ensuite, رحمه الله, ce hadith d'Abu Waqid al-Laythi رضي الله تعالى عنه, qui nous prouve que les polythéistes adoraient également les arbres. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn, alors que nous venions récemment de sortir de la mécréance. Ils étaient récemment entrés en islam. Les polythéistes avaient un arbre de jujubier qu'ils appelaient Zat Anwat, auprès duquel ils s'installaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes. Nous sommes alors passés auprès d'un jujubier et avons dit, ô messager d'Allah, désigne-nous un Zat Anwat comme ils ont un Zat Anwat. Le hadith. Abu Waqid, radiyallahu ta'ala anhu, à ce moment-là, il venait juste d'entrer en islam. Il faisait partie des nouveaux musulmans. Ils sont donc passés à côté de cet arbre, That Anwat, sur lequel les polythéistes accrochaient leurs âmes. Pourquoi ? Pour rechercher la bénédiction. Alors certains parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui venaient d'entrer en islam et qui ne connaissaient pas encore correctement le tawhid, ils ont dit, ô messager d'Allah, désigne-nous un That Anwat comme ils ont un That Anwat. Et ceci fait partie des méfaits de quoi ? Des méfaits du taqlid, des méfaits du suivi aveugle et des méfaits également du fait de ressembler aux polythéistes et aux mécréants. Et ceci fait partie des plus grandes calamités. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est stupéfait. Et il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar à 3 reprises. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il condamnait une chose. Il faisait le takbir. Ou alors il disait Subhanallah et il le répétait. Ensuite il a dit Inna sunan. C'est-à-dire, ce sont les voies de ceux qui vous ont précédé. L'histoire se répète. Vous faites comme ceux qui vous ont précédé, en suivant leur voie, en vous assimilant et en ressemblant aux polythéistes. Puis il leur a dit Kultum, walladhi nafsi biyadi, kama qalat banu Israël li Musa, ij'al lana ilahan, kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhalun. Il leur a ensuite dit Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa, désigne-nous une divinité comme leur divinité. Moussa alayhi salam, il a donc blâmé les enfants d'Israël. Tout comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Cependant, il est important de savoir que ni les premiers, ni les derniers n'ont commis le polythéisme. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont dit cette parole, ils n'ont pas pratiqué le shirk, car ils ne l'ont pas fait. De la même manière, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils n'ont pas pris cet arbre et n'ont pas recherché la bénédiction dans cet arbre. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, les a préservés. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit cela, ils l'ont immédiatement délaissé. Mais ils n'ont dit cette parole que par ignorance. Et lorsqu'ils ont su que c'était du polythéisme, ils l'ont délaissé et ne l'ont pas mis en pratique. Car s'ils l'avaient fait, alors ils seraient tombés dans l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui est visé par ce hadith, pourquoi le shaykh l'a mentionné, rahimahullah, c'est pour nous prouver qu'il y avait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui adoraient les arbres en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme ces polythéistes qui recherchaient la bénédiction en accrochant leur arme à cet arbre. Donc, on tire de ce hadith 3 bénéfices immenses. Le premier, c'est le danger de l'ignorance du tawhid. Le danger immense de l'ignorance du tawhid. Car celui qui ignore le tawhid, qui ignore l'unicité, alors il est en grand danger, il risque de tomber dans quoi ? Dans son contraire, qui est le shirk, le polythéisme, sans même s'en rendre compte. C'est pour cela qu'il est obligatoire d'apprendre le tawhid, d'étudier le tawhid, d'étudier la science de l'unicité, mais également d'étudier son contraire, qui est le shirk, le polythéisme, afin de pouvoir t'en écarter avec clairvoyance et ne pas tomber dedans par ignorance. Surtout, surtout, lorsque la personne voit les gens faire une chose, il se peut qu'il la trouve bien ou qu'il trouve cette chose comme étant positive. Alors, il va l'imiter aveuglément et par ignorance, il risque peut-être de tomber dans le shirk. Ceci nous montre donc le danger de l'ignorance de manière générale et plus précisément l'ignorance en ce qui concerne la croyance. Il est donc indispensable pour le musulman d'étudier la croyance à la lumière des textes du Coran et de la Sunna. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le danger de ressembler et de s'assimiler aux polythéistes. Car ceci peut conduire au polythéisme. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Dawud, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, quiconque ressemble à un peuple ou quiconque s'assimile à un peuple, alors il en fait partie. Il est donc interdit pour le musulman de s'assimiler ou de ressembler aux polythéistes. Et il se peut qu'en faisant cela, en s'assimilant à eux et en leur ressemblant, il tombe alors dans un de leurs actes de polythéisme et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait que rechercher la bénédiction dans les arbres, dans les pierres, dans les bâtisses ou toute autre chose, même si ceci n'est pas appelé ainsi, cela fait partie de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala et du polythéisme. Et de la même manière, ceux qui recherchent la bénédiction auprès des tombes, en se frottant au tombeau ou autre, tout ceci est du polythéisme, même si cela est appelé par un autre nom. Car ce qui est pris en considération, c'est la réalité des choses et non pas leur appellation. Enfin, pour conclure, nous dirons que le résumé de cette règle et le point le plus important à retenir est que le shirk consiste à adorer autre qu'Allah avec Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. Quelle que soit la chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est du shirk et ceci est interdit. Il n'est pas permis d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit, même si c'est un prophète, même si c'est un homme vertueux, même si c'est un ange ou toute autre chose qui peut être adorée en dehors d'Allah. Mais le culte doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.